Chapitre 26. Germantown, lundi 29 décembre 1980. Nathalie resta toute la journée au chevet de Rob. Il était fiévreux, ne savait pas très bien où il se trouvait et parlait de temps en temps dans son sommeil. Elle était restée étendue à ses côtés pendant la nuit, veillant à ne toucher ni ses côtes bandées ni sa main pansée. À un moment donné, il avait levé sa main valide et lui avait doucement caressé les cheveux. Marvin Gale ne s'était guère montré enthousiaste lorsque Gentry Hale était apparu sur le seuil de la Community House le dimanche soir. « Qui c'est ce gros lard, bébé ?» avait demandé Marvin depuis la plus haute marche du perron. Il était flanqué de Leroy et de Calvin, tous deux armés d'un fusil à canoncier. « C'est le shérif Rob Gentry, » dit Nathalie, regrettant aussitôt d'avoir identifié son compagnon comme un représentant de la loi. « Il est blessé. »
« Je le vois bien, bébé. Pourquoi tu l'emmènes pas dans un hôpital de blanc ?»«
Il y a quelqu'un qui nous poursuit, Marvin. Laissez-nous entrer. » Nathalie savait que si elle arrivait à se faire entendre du jeune chef charismatique, celui-ci lui viendrait en aide. Elle avait passé la majeure partie du week-end au foyer. Elle était là le samedi soir, lorsqu'on avait appris la mort de Lionel et de Monk. À la demande de Marvin, elle avait accompagné la bande pour photographier les corps démembrés. Puis elle s'était isolée dans un coin pour vomir en paix dans le noir. Marvin ne lui avait appris que plus tard que Monk avait sur lui une photographie de Melanie Fuller, qu'il était chargé de montrer aux membres auxiliaires de la bande afin de retrouver la trace de la vieille dame. Cette photographie avait disparu. Nathalie avait senti sa peau se glacer à cette nouvelle. Si incroyable que cela parût, ni la police ni les médias ne réagirent au meurtre. Le seul témoin était George, un gamin de 15 ans qui avait réussi à s'enfuir, et George n'avait parlé à personne, excepté aux membres de Soul Brickyard. La bande décida de ne pas ébruiter la chose. Les deux cadavres furent enveloppés dans des rideaux de douche et confiés à un congélateur dans la cave de Louis Taylor. Monk avait vécu en solitaire dans un immeuble condamné de Pastorius Street. Lionel vivait avec sa mère dans Bringhurst Street, mais la vieille dame ne dessoulait pratiquement jamais et ne remarquerait pas son absence avant plusieurs jours. « D'abord, on règle son compte au salaud de blanc qui a fait ça. Et ensuite, on en parlera aux flics et à la télé, » dit Marvin ce samedi soir. « Si on leur en parle maintenant, on n'aura plus assez de place pour se remuer dans le coin. » La bande avait suivi ses instructions. Nathalie était restée auprès d'eux tout l'après-midi du dimanche, répétant à plusieurs reprises sa description édulcorée des pouvoirs de la vieille dame, puis les écoutant élaborer leur plan de bataille. Ceci était simple. Retrouver la Fuller et le monstre blanc qui l'accompagnait et les tuer tous les deux. Le dimanche soir, elle s'était retrouvée devant le foyer, sous la neige qui tombait dru, essayant de soulever la masse d'un Rob à demi conscient et suppliant « Il y a des gens qui nous poursuivent !» Marvin avait fait un geste de la main. Louis, Leroy et un troisième membre de la bande, que Nathalie ne connaissait pas, avaient sauté du perron et s'étaient enfoncés dans la nuit. « Qu'est-ce qui te poursuit, bébé ?»«
Je ne sais pas. Des gens. »
« Ils sont envoûtés comme le monstre blanc ?»«
Oui. »
« C'est encore un coup de la vieille peau ?»«
Peut-être. Je ne sais pas. Mais Rob est blessé. On nous poursuit. » « Laissez-nous entrer, je vous en supplie !»
Marvin l'avait regardé de ses magnifiques yeux bleus, puis s'était écarté et leur avait fait signe d'entrer. Ils durent installer Gentry dans la cave, sur un matelas posé à même le sol. Nathalie avait insisté pour qu'on appelle un médecin ou une ambulance, mais Marvin avait secoué la tête. « Pas question, bébé. On a planqué deux morts dans le coin, et on ne dit rien à personne tant qu'on n'a pas retrouvé la sorcière vaudou. « Pas question d'alerter les flics à cause de ton copain blessé. On va appeler Jackson. » Jackson était le demi-frère de George, un homme calme et compétent, âgé d'une trentaine d'années, au crâne dégarni, qui avait été médecin militaire au Vietnam et avait abandonné ses études de médecine au bout de 2 ans et demi. Il arriva avec une sacoche bleue emplie de bandages, de seringues et de drogues diverses. «
Deux côtes cassées.
dit-il à voix basse après avoir examiné Gentry.
Cette plaie est profonde, mais ce n'est pas ça qui lui a brisé les os. Un centimètre plus bas, 3 centimètres plus profond, et il serait mort.
On lui a mordu la main, ce que je vois.
Peut-être souffre-t-il d'une commotion cérébrale. Impossible d'en mesurer la gravité sans radio.
Écartez-vous, s'il vous plaît, et laissez-moi travailler. Il commença par stopper l'hémorragie, nettoya et pansa les plaies les plus profondes, banda les côtes cassées et fit une piqûre antitétanique à Gentry pour prévenir toute complication du côté de la morsure qui lui avait presque broyé la main gauche. Puis il brisa une capsule sous le nez du blessé, éveillant celui-ci presque instantanément.
« Combien de doigts ?»«
3 », dit Gentry.
« Où suis-je, bon sang ?»
Ils parlèrent pendant plusieurs minutes, assez longtemps pour que Jackson écarte l'hypothèse d'un traumatisme crânien, puis Gentry se vit administrer une injection qui le replongea dans le sommeil.
« Il s'en tirera, » dit Jackson. « Je reviendrai le voir demain. » « Pourquoi n'avez-vous pas achevé vos études ?» demanda Nathalie, rougissant de sa curiosité.
Jackson haussa les épaules.
« Trop de conneries. J'ai préféré revenir ici. Réveillez-le toutes les 2 heures. »
Dans le coin de cave que Marvin leur avait octroyé, Nathalie avait réveillé Gentry toutes les 90 minutes. Sa montre indiquait 4h35 au moment où elle l'avait secoué pour la dernière fois, et où il lui avait caressé les cheveux avec tendresse.
« Il y a des drôles de types dans le coin, » dit Leroy.
Une douzaine de membres de la bande étaient réunis dans la cuisine, assis sur l'évier et autour de la table, ou adossés au mur et au placard. Gentry avait dormi jusqu'à 2 heures de l'après-midi et s'était réveillé affamé. À 4 heures, lorsque le conseil de guerre s'était réuni, il était toujours en train de grappiller dans les plats chinois qu'un gamin était allé lui chercher. Nathalie était la seule femme présente dans la pièce, en dehors de Kara, la petite amie taciturne de Marvin.
« Quel genre de drôle de type ?» demanda Gentry, la bouche pleine de porc mouchou.
Leroy se tourna vers Marvin, qui hocha la tête et dit
« Des drôles de types blancs de la police, des flics, comme toi, mec. »
« En uniforme ?»
Gentry était debout près de l'évier, son torse bandé le faisant paraître plus massif encore.
« Oh, que non !» dit Leroy. « Ils sont en civil. Super discrets, les enculés. Pantalon noir, anorak, jolis souliers pointus. Ces enfoirés cherchent à se fondre dans la foule. Tu parles ?»«
Où sont-ils ?»«
Ils sont partout, mec, » répondit Marvin. « Ils ont planqué une fourgonnette à chaque bout de Bringhurst. » Ça fait 2 jours qu'il y a un faux camion du téléphone au coin de Green et de Queen. 12 types dans 4 voitures banalisées entre Church et ici. Tout un paquet au premier étage d'un immeuble qui fait le coin de Queen et de Germantown.
Combien en tout ? Demanda Gentry.
Environ 40. Peut-être 50.
Ils font les 3-8 ?
Ouais. Ils se croient invisibles à rester comme ça devant le lavomatique d'Ashmead. Les seuls culs blancs de tout le quartier. Aussi réguliers que s'ils pointaient pour la Syrie de Bethléem, mec. Il y en a un qui ne fait rien à part leur apporter du café.
C'est la police de Philadelphie.
L'adolescent grand et mince nommé Calvin éclata de rire.
Tu rigoles ou quoi? Les flics du coin, ils sont toujours en tenue quand ils se pointent pour piéger quelqu'un. Blouson de cuir, chaussettes blanches, chaussures orthopédiques, à toute la panoplie.
« Et puis ils sont trop nombreux, » dit Marvin.
« Si tu prends tous les flics de la ville, la mondaine, la crime, les stupes et la police des mômes, ça t'en fait 50 dans la rue à tout casser. Ça doit être les stupes fédéraux ou quelque chose comme ça. »«
Ou le FBI, » dit Gentry.
Il se frictionna doucement la tempe gauche. Nathalie remarqua sa grimace de douleur.
« Ouais. »
Le regard de Marvin se fit vague pendant qu'il réfléchissait.
« Peut-être. Mais je comprends pas, mec. Pourquoi autant de flics ? J'ai cru qu'ils étaient sur la piste du mec qui a tué Zig, Mohamed et les autres, mais non. Ils se foutent bien d'un mec qui s'amuse à tuer des nègres. À moins qu'ils ne recherchent déjà la sorcière vaudou et son monstre blanc. C'est ça, bébé ?
Peut-être, dit Nathalie. Mais c'est plus compliqué.
Comment ça ?
Gentry se dirigea vers la table, le torse raide. Il posa sa main bandée sur la nappe.
« Il y a d'autres sorciers vaudous. Il y a un homme qui est probablement planqué quelque part en ville. D'autres personnes haut placées ont les mêmes pouvoirs. Ils sont en train de se faire la guerre. »
« Oh, le mec ! J'adore la façon dont tu parles !» dit Leroy. Et il répéta la dernière phrase prononcée par Gentry en imitant son accent sudiste.
« Je trouve ton patois tout aussi agréable !» grommela Gentry.
Leroy se dressa sur son siège, un rictus féroce aux lèvres.
« Qu'est-ce que t'as dit, mec ?»«
Il t'a dit de fermer ta gueule, Leroy, » dit doucement Marvin. « Alors tu fermes ta gueule. »
Il se tourna vers Gentry.
« Ok, shérif, dis-moi une chose. Ce type qui se planque dans le coin, c'est un blanc. »«
Ouais. » »«
Les autres types qui lui courent après, c'est des blancs. »«
Ouais. » »«
Les autres types qui sont sur le coup, c'est des blancs. »«
Mm-hmm. » »«
Ils sont aussi salauds que la sorcière vaudou et son monstre blanc ?»«
Ouais. »
Marvin soupira.
« Je m'en doutais. »
Il plongea une main dans la poche de son blouson kaki, en sortit le rugeur de Gentry et le posa sur la table. Planck.
C'est un sacré engin que tu trimbales sur toi, shérif. T'as jamais pensé à y mettre des balles ?
Gentry ne chercha pas à s'emparer du revolver.
J'ai des cartouches de rechange dans ma valise.
Où est ta valise, mec ?
Si elle était dans la Pinto, tu peux lui dire adieu.
Marvin est allé chercher ma valise dans la ruelle, dit Nathalie. Elle avait disparu, ainsi que ce qui restait de ta voiture. Et le bus aussi.
Le bus ?
Gentry haussa les sourcils avec tant de force qu'il grimaça et se prit la tête dans les mains.
Le bus a disparu ? Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment de notre arrivée et celui où vous êtes allé là-bas ?
6 heures, dit Leroy.
On n'a que la parole de bébé pour nous prouver que vous avez été chassé par le grand méchant bus, dit Marvin. Elle dit que vous avez été obligé de l'abattre. Peut-être qu'il est allé crever sous un buisson, shérif.
6 heures, répéta Gentry. Il s'appuya contre le réfrigérateur pour se soutenir.
On en a parlé aux nouvelles?
Les chaînes nationales en ont sûrement fait mention.
Non,
dit Nathalie.
Rien à la télé. Même pas un entrefilet dans le Philadelphia Inquirer.
Bon Dieu, dit Gentry. Ils doivent avoir des appuis incroyables pour étouffer aussi vite une pareille affaire. Il y a eu au moins 4 morts.
Ouais, mec, et la Septa est furax, dit Calvin, évoquant la compagnie de bus de la ville.
Je te conseille d'éviter les transports en commun tant que t'es dans le coin. La Septa n'aime pas du tout qu'on tue ses autobus.
Calvin rit si fort qu'il faillit tomber de son siège.
« Alors, où est ta valise, mec ?» demanda Marvin.
Gentry secoua la tête pour s'éclaircir les idées.
« Je l'ai laissée au Charlton Arms, chambre 210. Mais je n'ai payé qu'une nuit, on a dû la consigner à présent. »
Marvin pivota sur son siège.
« Taylor, tu bosses dans cette tôle. Tu peux entrer dans leur réserve, mec ?»«
Je veux !»
Taylor était un adolescent de 17 ou 18 ans, au visage maigre et ravagé par l'acné.
« C'est peut-être dangereux, » dit Gentry. « Peut-être qu'elle n'est plus là, ou peut-être qu'on la surveille. »«
Qui ça ? Un des flics vaudou ?» demanda Marvin.
« Entre autres. »«
Taylor, » dit Marvin.
« C'était un ordre. »
L'adolescent eut un large sourire, descendit de l'évier et s'en fut.
« On a d'autres trucs à discuter, » reprit Marvin. « Les Blancs peuvent quitter les lieux. »
Nathalie et Gentry, debout sur la petite galerie située derrière le foyer, regardaient la lumière hivernale s'assombrir à l'approche de la nuit. Le paysage n'avait rien de folichon. Un vaste terrain vague, empli de tas de briques cassées recouverts de neige, et l'arrière de 2 immeubles condamnés. La lueur des lampes à pétrole filtrant à travers un certain nombre de fenêtres sales trahissait la présence de squatteurs. Il faisait très froid. À un demi-pâté de maison de là, les flocons voletaient à la lumière des rares réverbères encore intacts. On reste ici, alors ? Demanda Nathalie. Gentry se tourna vers elle. Il avait endossé une vieille couverture en guise de manteau et seule sa tête était visible. Dans l'immédiat, cet endroit en vaut bien un autre. Nous ne sommes pas exactement entre amis, mais au moins avons-nous un ennemi commun. Marvin Gale est intelligent. Foutrement intelligent, renchérit Gentry. À ton avis, pourquoi gâche-t-il sa vie avec cette bande ? Gentry plissa les yeux et contempla le crépuscule crasseux. Quand j'étais à la fac de Chicago, j'ai un peu bossé avec des bandes de jeunes. Certains de leurs chefs étaient des connards. L'un d'eux était carrément psychopathe. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des imbéciles. Si tu places une personnalité alpha dans un espace clos, elle se hissera au sommet du groupe social où la compétition est la plus acharnée. Dans un contexte comme celui-ci, ce groupe n'est autre que le gang du quartier. Qu'est-ce qu'une personnalité alpha ? Gentry se mit à rire, mais s'arrêta aussitôt et se palpa les côtes. Quand les spécialistes du comportement animal étudient un groupe donné, ils appellent mâle alpha le bélier, le moineau ou le loup qui domine tous les autres. Comme je ne suis pas sexiste, je préfère raisonner en termes de personnalité. Il m'arrive parfois de penser que la discrimination raciale et autres conneries de la vie sociale engendrent un nombre peu ordinaire de personnalités alpha. Peut-être est-ce une sorte de sélection naturelle, par laquelle les groupes ethniques et culturels trouvent leur juste place dans une société injuste. Nathalie s'approcha de lui et lui caressa le bras à travers l'épaisseur de la couverture. « Tu sais, Rob, pour un shérif un peu plouc, tu as des idées vraiment intéressantes. » Gentry baissa les yeux. « Ça n'a rien de terriblement original. Saul Lasky développe une théorie similaire dans son livre « Pathologie de la violence ». Il expose la façon dont les sociétés opprimées ont tendance à produire des guerriers puissants lorsque la survie de leur nation ou de leur culture est en jeu, des sortes de personnalités alpha spécialisées. Même Hitler répond à cette description, d'une façon un peu perverse, je l'admets. Un flocon de neige atterrit sur la paupière de Nathalie. Elle le chassa d'un clignement d'œil. « Crois-tu que Saul soit encore en vie ?»« La logique suggère le contraire. » Gentry avait raconté les événements des derniers jours à Nathalie après s'être réveillé cet après-midi-là. Il resserra la couverture autour de lui et posa sa main bandée sur la balustrade délabrée. « Quoique... je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est encore en vie. Quelque part. »« Et quelqu'un l'a capturé ?»«
Ouais.
À moins qu'il n'ait réussi à disparaître de la circulation. Mais il nous aurait prévenus dans ce cas. »
Comment ?
Quelqu'un a effacé certains des messages que nous avions laissés sur ton répondeur. Comment Saul aurait-il pu nous joindre ? Surtout s'il est en fuite.
Bien raisonné.
Nathalie frissonna. Gentry se serra contre elle et l'enveloppa dans sa couverture. Tu penses à ce qui t'est arrivé hier ? Elle acquiesça. Chaque fois qu'elle commençait à se sentir en sécurité, une partie d'elle-même se rappelait les sensations qu'elle avait éprouvées lorsque la conscience d'Anthony Harrod avait pénétré son esprit. Et tout son corps tremblait comme au souvenir d'un viol brutal. Mais ce qu'elle avait subi était-il autre chose ?
« C'est fini, » dit Gentry. « Ils ne t'auront plus. »«
Mais ils sont toujours là, »
murmura Nathalie.
« Ouais.
Raison de plus pour ne pas tenter de quitter Philadelphie cette nuit. »
Tu penses toujours que ce n'est pas Harrod qui a envoyé le bus, qui les a envoyés à nos trousses ?
Je ne vois pas comment il aurait pu faire. Il était complètement dans le cirage quand on a quitté l'hôtel. Il a pu revenir à lui 10 minutes plus tard, mais il n'était sûrement pas en état de faire un numéro de gymnastique mentale. De plus, tu as eu l'impression qu'il n'utilisait son pouvoir vaudou que sur les femmes, n'est-ce pas ce que tu m'as dit ?
Oui. Mais ce n'est qu'une impression que j'ai eue quand il... était...
Fie-toi à cette impression. Celui ou celle qui a lâché ces types à nos trousses hier soir utilisait aussi des hommes.
Si ce n'était pas cet Anthony Harrod, alors qui était-ce ?
Il faisait noir à présent. Une sirène hurla quelque part en ville. les réverbères, les fenêtres faiblement éclairées, le reflet des lampes au mercure sur les nuages bas, tout cela paraissait irréel à Nathalie, comme si la lumière n'avait pas eu droit de citer dans ces canyons de briques sales, de métal rouillé et de ténèbres. Je n'en sais rien. Mais je sais que notre boulot est de nous accrocher et de survivre. Le seul point positif dans ce qui est arrivé hier, j'en suis presque sûr maintenant que j'y réfléchis, c'est que ceux qui en avaient après nous voulaient nous garder ici, mais ne voulaient pas nous tuer. Ou du moins ne voulaient pas te tuer. Nathalie le regarda bouche bée.
Comment peux-tu dire une chose pareille? Pense à tout ce qu'ils ont fait. Le bus, ces gens, pense à ce qu'ils t'ont fait.
Ouais. Mais ils auraient pu parvenir au même résultat de façon beaucoup plus simple.
Comment ?
Nathalie sut ce que Rob allait lui répondre au moment même où elle posait cette question.
S'ils nous poursuivaient, ça veut dire qu'ils nous voyaient, et par conséquent qu'ils pouvaient nous contrôler physiquement.
Je n'ai pas lâché mon revolver un seul instant. Ils auraient pu me forcer à te tirer dessus et à me tirer ensuite une balle dans la tempe. Nathalie frissonna sous la couverture. Gentry lui passa un bras autour des épaules.
« Donc, à ton avis, dit-elle, ils n'essayaient pas vraiment de nous tuer. »
« C'est une possibilité. »
Nathalie sentit qu'il ne souhaitait pas achever sa pensée.
« Quelle est l'autre possibilité ? »
le relança-t-elle. Gentry plissa les lèvres, puis eut un sourire penaud. « L'autre possibilité, et elle colle avec les faits elle aussi, c'est qu'ils sont tellement sûrs de nous tenir qu'ils se permettent de jouer un peu avec nous. » Nathalie sursauta lorsque la porte s'ouvrit brusquement derrière eux. C'était Leroy.
Hé ! Marvin veut vous voir tous les deux. Taylor est revenu et il a ramené ta valise, mec. Louis est revenu et il a de bonnes nouvelles. Lui, George et les autres, ils ont trouvé la cachette de la sorcière vaudou. Ils ont attendu qu'elle dorme et ils l'ont eue, mec. Et le monstre blanc aussi.
Le cœur de Nathalie se mit à battre la chamade.
Que voulez-vous dire, ils l'ont eu ?
Leroy les regarda avec un large sourire.
Ils les ont tués, je te dis. Louis a tranché la gorge de la vieille sorcière pendant qu'elle dormait. George et Setch, ils ont attaqué le monstre au couteau. Ils l'ont poignardé 12 fois, mec. Ils l'ont découpé en morceaux, mec. Ce salaud n'emmerdera plus la bande de Saul Brickyard.
Nathalie et Gentry échangèrent un regard, puis suivirent Leroy dans la maison emplie de bruit de fête. Louis Solartz était un adolescent massif, à la peau café crème et aux yeux vifs. Il était assis à la table de la cuisine, tandis que Cara, aidée d'une autre jeune femme, nettoyait et pansait sa gorge. Sa chemise jaune était tachée de sang.
« Qu'est-ce qui t'est arrivé, mec ? »
demanda Marvin, qui venait tout juste de descendre.
« Je croyais que c'était toi qui lui avais tranché la gorge. »
Louis hocha la tête d'un air excité, tenta de parler, ne réussit qu'à croasser, et reprit la parole murmurant d'une voix rauque.
« Ouais, je lui ai tranché la gorge. C'est le monstre blanc qui m'a fait ça avant qu'on lui règle son compte. »
Cara lui tapa sur la main pour l'empêcher de se toucher la gorge, puis lui appliqua un pansement. Marvin s'assit sur la table.
« Je pige pas, mec. Tu dis que t'as eu la sorcière vaudou pendant qu'elle dormait. Mec, ce salaud de blanc a eu le temps de te blesser. Où sont passés George et Setch ?
Ils sont toujours là-bas, mec.
Ils n'ont rien ?
Non, ils n'ont rien. George voulait couper la tête du monstre blanc, mais Setch lui a dit d'attendre.
« D'attendre quoi ? » demanda Marvin.
« D'attendre que tu sois là, mec. »
Nathalie et Gentry se tenaient en retrait. Elle lança un regard interrogateur à Rob. Il haussa les épaules sous sa couverture. Marvin croisa les bras et soupira.
« Ok. Raconte-moi tout, Louis. Depuis le début. »
Louis toucha sa gorge bandée.
« Ça fait mal.
Raconte !»
ordonna sèchement Marvin.
« D'accord, d'accord. » George, Seth chez moi, on interrogeait les gens dans la rue, comme tu nous avais demandé.
Et on s'est dit qu'on en avait marre. Personne n'avait rien vu, tu vois. Et on était dans Germantown Avenue quand elle est sortie du magasin qui est au coin de Worcester.
Chez Sam ?
Dit Calvin.
Oui, c'est ça, fit Louis avec un large sourire. C'était la sorcière vaudou en personne.
Vous l'avez reconnue grâce à ma photo ? Demanda Nathalie.
Tout le monde se tourna vers elle et Louis lui lança un long regard étrange. Nathalie se demanda si les femmes n'étaient pas censées se taire pendant un conseil de guerre. Elle s'éclaircit la gorge et répéta.
« Est-ce que ma photo vous a aidé ?»«
Ouais, un peu, » murmura Louis. « Mais le monstre blanc était avec elle. »«
T'es sûr que c'était lui ?» demanda Leroy.
« Ouais, ouais, » dit Louis. « Et George l'avait déjà vu, rappelle-toi. Un type maigre, des cheveux longs et graisseux, des yeux bizarres. Tu crois qu'il y a beaucoup de types comme ça qui se promènent dans la rue avec une vieille dame ?»
Les 25 personnes présentes s'esclaffèrent. Nathalie interpréta ce rire comme une manifestation de soulagement après une trop longue période d'angoisse.
« Continue, » dit Marvin.
« On les a suivis, mec. Ils sont entrés dans une vieille baraque. On les suit. Sedge dit « On y va !» Mais moi je dis « Jetons d'abord un coup d'œil. » George monte en haut d'un arbre près de la maison et voit la sorcière vaudou qui dormait. Alors je dis « On y va ». Sedge dit « D'accord ». Il crochette la serrure et on entre.
« Où est la maison ?» demanda Marvin.
« Je te montrerai, mec.
Dis-le-moi »
ordonna Marvin, et il saisit Louis par le col de sa chemise. L'autre gémit et se protégea la gorge.
« Elle est dans Queen Lane, mec, pas loin de l'avenue. Je te montrerai, mec. Sedge et George attendent là-bas. »
« Finis ton histoire, » dit doucement Marvin.
On est entré en douce. Il n'était que 4 heures, tu vois. Mais la sorcière vaudou, elle dormait en haut, dans une pièce pleine de poupées.
De poupées ?
Ouais, comme dans une chambre de gosse, tu vois. Mais elle n'était pas vraiment endormie. On aurait dit qu'elle avait pris trop de cam, tu vois.
Elle était en transe, dit Nathalie. Louis se tourna vers elle.
« Ouais, quelque chose comme ça. »
« Et ensuite ?» demanda Gentry.
Louis regarda l'assemblée, un large sourire aux lèvres.
« Ensuite, je l'ai coupé la gorge, mec. »«
Elle est morte ?» demanda Leroy.
Le sourire de Louis s'élargit encore.
« Oh oui, elle est morte !»«
Et le monstre blanc ?» demanda Marvin.
Sedge, George et moi, on l'a trouvé dans la cuisine. Il est en train d'aiguiser sa grande lame recourbée.
La faux ? Dit Nathalie.
Ouais, et il avait un couteau, tu vois. C'est comme ça qu'il m'a eu quand on le lui a enlevé. Ensuite, Sedge et George lui ont fait son affaire en beauté. Ils lui ont tranché la gorge, mec.
Il est mort ?
Ouais. T'en es sûr ? Foutre oui. Tu crois qu'on sait pas dire quand un mec est mort, mec ?
Marvin regarda fixement Louis. Il y avait une étrange lueur dans ses superbes yeux bleus.
Cet enfoiré de blanc a tué 5 de nos frères, Louis. Il a tué Mohamed, qui était costaud et méchant. Comment toi, Sedge et le petit George, vous êtes arrivés à avoir la peau de cet enfoiré ?
Louis haussa les épaules.
Je sais pas, mec. C'était plus un monstre après la mort de la sorcière. Rien qu'un gamin blanc tout maigre. Il pleurait quand Sedge lui a tranché la gorge.
Marvin secoua la tête.
Je pige pas, mec. Ça a l'air trop facile.
Et les flics ?
Louis le regarda sans comprendre.
Hé, mec ! Dit-il finalement. Sedge m'a dit de te ramener tout de suite. Tu veux aller les voir, oui ou non ?
Ouais, dit Marvin.
Ouais.
« Tu n'y vas pas, » dit Gentry.
« Comment ça, je n'y vais pas ?» protesta Nathalie. « Marvin veut que je prenne des photos. »«
Je me contrefous de ce que veut Marvin. Tu restes ici. » Il se trouvait dans une pièce du premier étage. Toute la bande était au rez-de-chaussée. Gentry avait monté sa valise et était en train d'enfiler un pull-over et un pantalon de velours. Nathalie vit que le sang avait coulé sous ses bandages, au-dessus de ses côtes.
« Tu es blessé. Tu ne devrais pas y aller, toi non plus.
Je dois m'assurer que la Fuller est bien morte.
Je veux voir, moi aussi.
Non. » Gentry enfila un gilet matelassé par-dessus son pull et se tourna vers elle.
« Nathalie !»
Il leva une de ses grosses pattes et lui caressa doucement la joue.
« Je t'en prie. Je tiens beaucoup à toi. »
Nathalie se pressa doucement contre lui, veillant à ne pas toucher ses blessures. Elle leva son visage vers lui et l'embrassa. Puis, nichant son visage dans la laine de son pull, elle murmura
« Je tiens beaucoup à toi, moi aussi, Rob. »
« D'accord. Je reviendrai dès que j'aurai vu ce qui s'est passé. »
« Mais les photos ?»«
Je prends ton Nikon, d'accord ?»«
Entendu, mais ça me plaît pas de... »
« Écoute, » dit Gentry de sa voix la plus traînante, « ce Marvin n'est pas la moitié d'un con. Il ne va prendre aucun risque. »«
Ne prends pas de risque, toi. » »«
Non, madame.
Il faut que j'y aille. »
Il l'attira contre lui pour lui donner un long baiser passionné, et Nathalie, oubliant ses côtes, l'étreignit de toutes ses forces. Nathalie observa le départ de l'expédition depuis une fenêtre du premier étage. Elle réunissait Louis, Marvin, Leroy, la grande perche nommée Calvin, Trout, un membre plus âgé au visage renfrogné, des jumeaux dont Nathalie ignorait l'identité, et Jackson. L'ex-médecin militaire était arrivé alors que le groupe se préparait au départ. Tous ses membres étaient armés, excepté Louis, Gentry et Jackson. Calvin et Leroy dissimulaient un fusil à canoncier sous leur manteau. Trout portait un 22 long rifle et chacun des jumeaux disposait d'un petit pistolet bon marché que Rob appelait un « Saturday Night Special ». Gentry avait demandé à Marvin qu'il lui rende son rugeur, mais le chef de bande avait éclaté de rire, achevé de charger le gros calibre et l'avait glissé dans la poche de son blouson kaki. Au moment du départ, Gentry leva les yeux vers Nathalie et agita le Nikon pour lui dire au revoir. Nathalie s'assit sur le matelas et lutta contre une soudaine envie de pleurer. Elle passa en revue toutes les éventualités possibles et imaginables.
Si Mélanie Fuller était morte, peut-être pourrait-il quitter la ville.
Peut-être. Mais qu'allaient faire les autorités dont Rob avait parlé? Et Lowburst?
Et Anthony Harrod?
Nathalie sentit un goût de bile dans sa bouche lorsqu'elle repensa à ce salopard aux yeux de lézard. Elle avait perçu la haine et la crainte que lui inspiraient les femmes durant les quelques minutes qu'elle avait passées sous son contrôle, et ce souvenir lui soulevait le cœur. Elle regretta de ne pas lui avoir défoncé la tête quand elle en avait eu l'occasion. Un bruit dans l'escalier la fit sursauter. Quelqu'un émergeait de la pénombre qui régnait sur le palier. Le premier étage était désert. Taylor était resté pour monter la garde, les autres membres de la bande étaient allés alerter leurs camarades, et Nathalie entendait des rires au rez-de-chaussée. L'intrus s'avança vers la lumière d'un pas hésitant, et Nathalie aperçut une main blanche, un visage pâle. Elle jeta un rapide regard autour d'elle. Il ne restait plus aucune arme à l'étage. Elle se précipita vers la table du billard, brillamment éclairée par l'unique ampoule de la pièce, et saisit une queue, la soupesant pour déterminer l'emplacement de son centre de gravité. Elle la grippa des deux mains et dit
« Qui va là ?»«
Ce n'est que moi. »
Bill Woods, le prêtre qui dirigeait théoriquement le foyer, s'avança dans la lumière. « Excusez-moi si je vous ai fait peur. »
Nathalie se détendit sans lâcher son arme improvisée.
« Je croyais que vous étiez parti. »
Le prêtre se pencha sur la table et joua avec une boule blanche.
« Oh, je n'ai cessé d'aller et venir durant tout l'après-midi. Savez-vous où sont partis Marvin et tous les autres ?»«
Non. »
Woods secoua la tête et ajusta ses lunettes aux verres épais. « C'est vraiment quelque chose d'affreux, la discrimination et l'exploitation dont ces enfants sont victimes. Saviez-vous que le taux de chômage dépasse 90% chez les adolescents noirs de ce quartier?
Non.
Nathalie avait fait le tour de la table pour s'éloigner de cet homme au regard intense, mais il ne semblait animé que du désir de communiquer.
C'est pourtant comme ça.
Les magasins de Germantown Avenue appartiennent presque exclusivement à des Blancs, en majorité des Juifs. Ils ne vivent plus dans le quartier, mais ils continuent d'en contrôler les activités commerciales.
Ah, c'est toujours la même histoire.
Que voulez-vous dire? Nathalie se demanda si Rob et les autres étaient arrivés à destination. Si la morte n'était pas Mélanie Fuller, qu'allait faire Rob?
Les Juifs,
articula Woods. Il se percha au bord de la table de billard et tira sur les plis de son pantalon. Il caressa sa petite moustache, un vague trait noir pareil à une chenille s'agitant au-dessus de ses lèvres. L'histoire nous apprend que les Juifs ont souvent exploité les minorités pauvres d'Amérique.
« Vous êtes noire, Miss Preston. Vous devez savoir de quoi je parle. »«
Je ne comprends rien à ce que vous racontez, » dit Nathalie, au moment précis où une explosion secouait la façade du bâtiment.
« Grand Dieu !»
s'écria Woods tandis que Nathalie se précipitait à la fenêtre. Deux automobiles abandonnées au bord du trottoir étaient en train de brûler. Des flammes hautes de 10 mètres illuminaient les terrains vagues et les maisons désaffectées jusqu'au talus de la voie ferrée. Une douzaine de jeunes noirs se précipitaient dehors en criant et en brandissant leurs fusils.
« Je ferais mieux de retourner au presbytère pour appeler les pompiers, » dit Woods. « Le téléphone du foyer ne marchait pas quand j'ai voulu. »
Nathalie se retourna pour voir pourquoi le prêtre s'était interrompu. Woods avait les yeux fixés sur un nouveau venu qui se tenait en haut de l'escalier, à la lisière de la zone éclairée. Il était jeune et mince, presque cadavérique, vêtu d'un blouson kaki souillé et déchiré. Ses joues creuses émettaient une lueur blanche, et ses longs cheveux emmêlés pendaient sur des yeux si profondément enfoncés dans leurs orbites qu'ils ressemblaient à des braises plantées dans un crâne de chair. Sa bouche était grande ouverte, et Nathalie vit un moignon de langue s'y agiter tel un ver mutilé dans son trou. Il tenait dans ses mains une faux plus grande que lui, et lorsqu'il s'avança d'un pas, son ombre haute de 3 mètres bondit sur le plâtre taché du mur.
« Vous n'avez rien à faire ici !»
commença le révérend Bill Woods. La faux siffla en achevant sa course. Des lambeaux de chair et de vertèbres reliaient encore la tête de Woods à son torse lorsque celui-ci s'effondra sur la table de billard. On entendit un battement sourd, et un flot de sang jaillit sur le feutre vert, coulant vers la blouse la plus proche. D'un coup sec, la créature aux cheveux longs, toujours muette, dégagea la lame du cadavre et se tourna vers Nathalie. Alors même que Woods prononçait ses dernières et absurdes paroles, Nathalie avait fracassé la fenêtre avec sa queue de billard. Toutes les ouvertures vitrées de l'immeuble étaient protégées par des barreaux métalliques. Elle hurla de toutes ses forces, surprise par l'hystérie qui perçait dans sa voix, puis se ressaisit. Le grondement des flammes et les cris des témoins étouffaient ses hurlements. Personne ne leva les yeux vers elle. Nathalie saisit la queue de billard par son extrémité et courut vers la table. La créature à la faux fit un pas vers sa gauche. Nathalie obliqua à droite, passa de l'autre côté de la table et jeta un regard vers l'escalier. Elle ne pourrait jamais y arriver à temps. Ses jambes se mirent à trembler, menaçant de la trahir. Nathalie hurla, appela au secours, agita la lourde queue, sentant l'adrénaline envahir peu à peu son organisme. Le cauchemar ambulant fit un pas chassé sur sa droite. Nathalie se déplaça, toujours de l'autre côté de la table, s'approchant un peu plus de l'escalier. La créature leva sa faux, fracassant l'abat-jour de la lampe qui se mit à osciller au bout de son fil. Nathalie entendit un bruit d'eau qui coulait. Elle baissa les yeux et se rendit compte que le sang jaillissait toujours du cou du cadavre couché sur la table. L'hémorragie cessa au moment où ses yeux tombaient dessus. La lampe projetait sur le mur des ombres fabuleuses et altérait les couleurs du feutre et du sang, le rouge et le vert virant au gris et au noir, à chacune de ses oscillations. Nathalie hurla lorsque la créature bondit, volant littéralement au-dessus de la table, et fit décrire un demi-cercle meurtrier à la lame de sa faux. Elle se baissa vivement, pointant la queue de billard comme une lance, et sentit son extrémité s'enfoncer dans le blouson du monstre alors même qu'il s'effondrait sur elle. Le manche de la queue heurta le sol lorsque Nathalie tomba à genoux et fit office de levier, projetant le monstre au-dessus d'elle. Il atterrit sur le dos avec un bruit sourd et, sans attendre de se relever, visa les jambes de Nathalie, faisant résonner la lame de la faux sur le plancher. Nathalie fit un bond pour esquiver le coup et se précipita vers l'escalier au moment où le monstre se remettait sur pied. Elle lança la queue de billard dans sa direction, atteignit sa cible, mais ne prit pas le temps de voir ce qui en résultait. Nathalie descendit les marches 4 à 4. Un bruit de pas pesant résonna derrière elle. Elle fit irruption dans l'entrée, rebondit sur Cara près de la porte de la cuisine, continua de courir.
« Où tu vas comme ça ?»
demanda Cara.
« Ne reste pas là !»
La lame de la faux surgit sur le seuil de la cuisine et se planta entre les deux yeux de Cara. La belle jeune femme s'effondra sans un bruit, sa tête heurtant le pied du fourneau. Nathalie ouvrit la porte de derrière d'un coup de pied, sauta par-dessus la balustrade, atterrit sur le sol gelé 1 mètre plus bas, roula sur elle-même et se mit à courir avant d'entendre la porte se rouvrir derrière elle. Fendant l'air glacé, elle traversa la désolation qui s'étendait derrière le foyer, s'engagea dans une ruelle plongée dans les ténèbres, traversa une rue éclairée, plongea dans une autre ruelle. Derrière elle, le bruit de pas se rapprochait. Elle entendit un souffle court, un halètement bestial. Nathalie baissa la tête et accéléra.